Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 13 octobre dernier, la reproduction de son portrait caché sous un drap a été découverte sous les acclamations de la foule place Saint-Pierre de Rome. Le visage du cardinal Newman, prêtre anglais du 19e siècle, converti au catholicisme, prêtre anglican, pardon, devenu un grand théologien, au point que certains plaident aujourd'hui pour qu'il soit déclaré rien moins que docteur de l'Église. Un homme d'une grande érudition, le prédicateur un temps le plus lu et écouté d'Angleterre, un homme dont le travail a inspiré le Concile Vatican II, un maître, mais aussi un grand témoin, que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. À la découverte du cardinal Newman, tout simplement comme on découvre d'autres figures au long de cette émission. C'est le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec vous, Jean-Louis Breteau, vous êtes diacre, vous êtes déjà intervenu à cette antenne, diacre et professeur émérite d'anglais à l'université Jean Jaurès, bonjour.
Bonjour.
On va partir donc à la découverte d'une autre grande figure, je dis autre parce qu'il y en a eu plusieurs ces derniers temps. On a parlé de Madeleine Delbrel, quand on n'avait pas parlé, je me demande si c'est pas déjà il y a quelques temps, mais Élisabeth de la Trinité. Bref, on part à la découverte de pages de l'histoire de l'Église, entre autres donc avec le cardinal Newman. Je l'ai dit, donc c'est la dernière canonisation du pape François. Je crois qu'il y avait 5 personnes qui ont été canonisées le 13 octobre dernier. Et en faisait partie donc cet ancien prêtre anglican converti au catholicisme. Alors, beaucoup de choses à dire. On va prendre le temps de parcourir sa vie, de voir un peu les grands points de sa spiritualité ou de sa doctrine. Et puis, à la fin de l'émission, vous nous direz pourquoi il vous touche, il vous parle particulièrement et vous nous donnerez des pistes de lecture, d'approfondissement. Il y a un livre que je n'ai pas entre les mains, mais dont le titre est « Newman, la sainteté de l'intelligence ». Est-ce que ça serait une manière d'introduire ? C'est quoi ? C'est un grand chercheur de Dieu, tout simplement ?
Tout à fait. Le livre en question a été publié en novembre dernier, suite à la canonisation. C'est un recueil d'articles de théologiens ou intellectuels catholiques qui essayent de montrer les différentes facettes en tant qu'intellectuel du cardinal Newman, mais en montrant en même temps que c'est, puisqu'il est canonisé, c'est sûrement un saint, et que cette sainteté se reflète dans toute sa vie, et notamment dans son travail d'élucidation de la foi, ce parcours qu'il a subi ou connu, qu'il a eu depuis une enfance dans la partie, disons, très protestante de l'Église anglicane, jusqu'à un rapprochement avec ce qu'on appelait le côté anglo-catholique, les anglicans un peu plus proches du catholicisme, et puis sa conversion, entre guillemets, mais c'est une conversion au catholicisme en 1845.
Voilà, donc un parcours intellectuel et spirituel assez hors norme. Pour situer un peu l'homme, donc je le disais en introduction, hein, pendant une quinzaine d'années, ça a été le prédicateur le plus écouté et le plus lu d'Angleterre, donc au 19e siècle. Voilà, il a une correspondance considérable qui fait un peu penser à la correspondance de Jacques Maritain, qu'on connaît un petit peu ici à Toulouse, plus de 20 000 lettres. Il a été pasteur toute une partie de sa vie. Et il a eu une œuvre qui n'a pas toujours été très comprise de part et d'autre, soit côté anglican, soit côté catholique. Il a eu parfois des ennuis avec Rome. On va en parler. Commençons par le début. Il est important de savoir d'où viennent ces hommes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du milieu dans lequel naît et grandit le cardinal Newman?
Alors, c'est un milieu bourgeois anglais du début du 19e siècle. Son père était banquier à la City de Londres. Malheureusement pour lui, il a fait faillite au moment après les guerres napoléoniennes en 1816, et donc la famille s'est retrouvée un peu dans la gêne à ce moment-là. Il y a eu 6 enfants, donc Newman était l'un des 6, et la maman était descendante des Huguenots français, très calviniste. Donc elle a montré à son fils cette voie, elle était très pieuse. Elle leur apprenait à lire la Bible, à tel point que Newman, qui avait une mémoire extraordinaire, apprenait des chapitres entiers de la Bible par cœur. Et ça lui restait jusqu'à la fin de sa vie, cette imprégnation de ce qu'on appelle l'évangélisme. L'évangélisme, la partie de l'anglicanisme la plus proche des protestants, de la Réforme. Il faut bien comprendre que l'Église anglicane, pour nous, est très difficile à saisir à cause d'une qualité qu'on lui attribue. Le mot anglais correspond assez bien, on l'appelle la comprehensiveness, c'est-à-dire le fait pour l'Église anglicane de pouvoir comprendre en son sein des gens extrêmement différents, allant donc du protestantisme pur et dur, calvinisme pur et dur, jusqu'à quelque chose de très très proche des catholiques, au point dans la deuxième partie du 19e siècle, il y avait un mouvement qu'on appelle le mouvement ritualiste, qui cherchait à copier totalement l'Église catholique, au point même le nombre de boutons sur les soutanes devait être le même que celui des catholiques.
Enfin, en tout cas, si on en reste donc au cardinal Newman dans sa jeunesse, donc c'est un élève aussi brillant qui va étudier donc à Oxford. Il arrive à Oxford donc en juin 1817, il a donc 16 ans.
Oui.
Et dès juin 1817, il vit donc dès 1816, il vit une grande expérience spirituelle.
Oui.
Dans un livre qu'on citera tout à l'heure, je citerai à la fin de l'émission, Comprendre, John Henry Newman. Il y a des passages qui parlent donc de cette conversion. Je vais le laisser parler lui-même. La réalité de la conversion, elle coupait le doute à la racine, dit Newman, créant une chaîne entre Dieu et l'âme. Je sais que j'ai raison, comment le savez-vous? Je sais que je sais, comment? Je sais que je sais que je sais, etc. Et puis un autre passage, ce Dieu, je le sens dans mon cœur, j'ai le sentiment d'être en sa présence. C'est l'écho d'une personne qui me parle. Un écho implique une voix suppose une personne qui parle, et cette personne, je l'aime, je la crains. Il y a un petit côté Claudel, en fait, à lire ça. Hein.
Là, au moment de sa conversion, il fait l'expérience d'une présence, comme ça a été dit. Et il dit, il n'y avait que deux êtres, moi et Dieu, ou Dieu et moi. Et toute sa vie, il a eu cette conviction, mon Dieu et moi, qui sont deux êtres qui vivent en quelque sorte en communion le plus possible, progressivement de plus en plus tout au long de sa vie, avec un sentiment de la présence de Dieu qui ne va jamais le quitter à travers toutes les aventures qu'il va avoir, toutes les difficultés qu'il va traverser. Et il dira toujours, eh bien, j'ai en moi cette enracinée, cette présence de Dieu dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit et même aussi, bien sûr, dans mon intelligence, dans ma raison.
Il faut dire que le début de sa vie de foi se passe donc plutôt chez les évangéliques. Il étudie à Oxford, il étudie avec succès, et il devient plus ou moins enseignant, c'est ça, à Oxford.
C'est ça.
Racontez-nous la suite. En fait, on a l'impression qu'après, il passe beaucoup de temps à Oxford, et c'est le temps d'une grande recherche intellectuelle et d'une conversion personnelle.
Tout à fait. Alors, il fait une expérience difficile. C'est un travailleur tellement acharné qu'il s'épuise au travail. Et lorsqu'il passe son bachelor, c'est-à-dire la licence, où il étudie en même temps les lettres classiques et les mathématiques. Bon, voilà.
Alors qu'il avait fait du droit aussi à un moment, non ?
Oui, il a fait de tout.
Oui, d'accord.
Mais il est tellement crevé qu'il échoue. Enfin, il échoue pas, mais il a une mention très très inférieure à sa valeur habituelle. Mais néanmoins, sa valeur est reconnue puisque très rapidement, on va lui confier des postes, en particulier le poste de tuteur dans le collège d'Oriel, qui est le collège le plus connu à l'époque, le plus en vogue. À Oxford, vous savez, l'organisation des collèges d'Oxford et de Cambridge, c'est assez particulier.
C'est
Il y a l'université,
oui,
où sont les cours, mais les étudiants vivent dans des établissements qu'on appelle les collèges, qui eux-mêmes dispensent des enseignements et dans lesquels il y a un suivi très très attentif par des tuteurs. Donc il devient tuteur. Et au début, ça marche bien, mais ensuite, quelqu'un qui était un ami à lui, qui était très... très, très, très évangélique aussi, très, très calviniste, Hawkins, va devenir principal du proviseur du collège et il sera en désaccord avec Newman, de sorte que peu à peu, Newman n'aura plus d'élèves.
Alors juste sur tout son travail intellectuel, assez rapidement, donc il est pris dans ce qu'on appelle le mouvement d'Oxford. Il ne s'agit pas forcément de trop détailler, donc il y avait un différent, on va dire, avec les autorités temporelles, puisque l'anglicanisme, c'est une religion, une religion d'État, on peut dire.
C'est ce qu'on appelle une religion établie. Une église établie. Et donc la reine, encore aujourd'hui, est gouverneur de l'Église d'Angleterre. Mais bien entendu, la reine intervient le moins possible dans la vie de l'Église. Et normalement, le Parlement et le gouvernement anglais interviennent le moins possible. Là, il y a eu une volonté d'intervention brutale en 1832 du Parlement anglais. On ne va pas détailler la chose, mais ça a réveillé un certain nombre de personnes, notamment Newman et ses amis, déjà assez anglo-catholiques, on peut dire, enfin, qui s'étaient déjà éloignés de l'évangélisme de sa jeunesse, tout en gardant cette conviction dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, ça les pousse à une réflexion sur la nature de l'Église anglicane. Et ils essaient de défendre un point de vue à l'intérieur de ce qu'on appelait les tracts. C'est pour ça qu'on appelle ça le mouvement tractarien. Ils ont donc publié pendant les années 30, jusqu'au début des années 40, 90 tracts, dans lesquels Newman en particulier essayait de défendre l'idée que l'Église anglicane était une via media, une voie moyenne entre le catholicisme romain, comme on disait toujours à l'époque, on dit ça encore en Angleterre, entre le catholicisme romain et le protestantisme, disons, évangélique, donc pur et dur. Alors quand on dit évangélique, faire attention, c'est pas tout à fait la même chose que les évangéliques d'aujourd'hui, qui sont souvent des communautés indépendantes. Il s'agit là du mouvement évangélique à l'intérieur de l'Église anglicane. Voilà. Mais peu
si,
à peu.
Si vous ne suivez pas complètement, c'est pas grave. C'est pas l'objet de savoir exactement quelles sont les différentes chapelles, mais en tout cas, c'est des précisions importantes. Juste Jean-Louis Breteau, excusez-moi, je vous coupe, mais à ce moment-là, donc Newman entreprend un travail de recherche donc profond. Donc il se penche sur les premiers temps de l'Église,
oui.
Sur les premiers conciles, sur les pères oui. de l'Église, et c'est à la faveur de ces recherches en fait que petit à petit, oui. il en vient au catholicisme. Est-ce que vous pouvez nous oui. expliquer un peu ce mouvement ?
Alors il va. Il faut dire quand même qu'il y a une tradition à laquelle lui et ses amis sont attachés, c'est la tradition des grands théologiens de l'Église anglicane du début du XVIIe siècle, qui eux-mêmes étaient très imprégnés de patristique. En particulier, il y en a un qu'on connaît très bien qui s'appelle Lancelot Andrews.
Patristique, c'est ce qu'on appelle les pères de l'Église.
Les pères de l'Église. Voilà. Donc il va travailler sur les premiers conciles. L'un de ses premiers ouvrages, ce sont les Ariens du IVe siècle. Donc il va réfléchir sur l'hérésie arienne, etc., etc. Et peu à peu, il va réfléchir sur, et on en parlera tout à l'heure, sur ce qu'il a appelé le développement de la doctrine.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'il découvre et qu'est-ce qui fait qu'il y a une bascule ? J'ai cru comprendre qu'il se retrouvait un peu dans Saint-Augustin qui tout d'un coup a été frappé.
Tout à fait, il se retrouve dans Saint-Augustin, il se retrouve dans Saint-Athanase, il se retrouve dans tous les pères qui ont été ceux qui ont conduit, on peut dire, les premiers conciles. Et il va essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui motivait ces pères de l'Église, comment leur recherche de la vérité se faisait. Et il va essayer lui-même de faire la même façon. Il veut vraiment chercher la vérité sur ce qu'est l'Église chrétienne. Et c'est en progressant dans cette réflexion qu'il va être amené peu à peu à reconnaître que bien l'Église chrétienne la plus authentique, à ses yeux, ça va être l'Église catholique. Au début, il avait pensé qu'il pourrait montrer que ce que les anglicans appelaient les ajouts ou les corruptions de la doctrine chrétienne, qui sont des doctrines défendues par les catholiques, en particulier le culte de la Vierge Marie, le purgatoire, la transsubstantiation, etc. C'était des corruptions.
Transsubstantiation, c'est donc la présence réelle.
C'est la doctrine thomiste, la doctrine de thomiste qui
dit
que
du sang du Christ.
Voilà, une substance. Voilà. Eh bien, il va découvrir peu à peu que ça ne tient pas, ce raisonnement. Si, en regardant l'histoire de l'Église, en approfondissant les textes des pères de l'Église, etc., il va comprendre peu à peu que ça ne tient pas, son argument. Et peu à peu, il va comprendre que ces doctrines, justement, qui sont considérées comme des corruptions par la plupart des protestants et des anglicans, sont en fait un développement du contenu révélé.
Comment se passe alors déjà conversion, le mot est peut-être maladroit parce qu'il était déjà baptisé.
Voilà.
Quand on passe de l'évangélisme au catholicisme ou inversement, on n'appelle pas ça une conversion. Mais
alors ça n'a pas été très simple.
Et comment ça s'est passé pour lui ?
Alors ça s'est passé, c'est que d'abord, il avait été longtemps, comme on a dit, un grand prédicateur. Donc il était curé longtemps de la paroisse universitaire.
Donc ce n'était pas un inconnu qui se convertissait.
Ah, du tout, non.
Il passait au catholicisme.
En quelque sorte, un archiprêtre, quoi, le curé de Sainte-Mary, qui est l'église de l'université. Et en voyant que de plus en plus ses idées évoluaient, il a été obligé de se retirer de cette fonction, et il s'est retiré dans un lieu qui dépendait de Saint Mary, dont il était gérant aussi. On l'a laissé faire à Little Moor, ça s'appelle. Et là, il va de plus en plus donc se rapprocher de l'Église catholique, et il va aller à la rencontre de certaines personnes, et en particulier d'un bienheureux, Domenico Barberi, qui était un Italien passionniste, de la religion passionniste, qui était un type merveilleux, qui l'accueille en 1845 dans l'Église catholique. Mais évidemment, ça va lui demander ensuite toute une démarche, notamment d'aller à Rome, faire un bout de séminaire à Rome, et il sera ordonné diacre puis prêtre catholique à Rome en 1846.
Alors la suite, comme je vois le temps qui passe, oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première pause, et puis peut-être la suite, on la racontera au long des points sur lesquels on souhaite s'arrêter. Je le dis, vous l'avez déjà dit, hein, la question du dogme et de son développement, ça peut paraître bien compliqué, mais en fait c'est une manière de parler de la tradition, l'Église catholique, hein, il y a l'écriture et la tradition, et aussi du rôle de la conscience qui est très important donc chez Newman, ça on en parlera peut-être après la pause. La suite, Jean-Louis Breteau, après avoir été reçu donc dans l'Église catholique en 1845 et jusqu'à son décès donc en 1890, il a été créé cardinal donc par Léon XIII en 1879.
C'est ça.
On a l'impression, quand on le lit rapidement, comme ça a été mon cas, qu'il a passé en fait toute la suite de sa vie à essayer d'expliquer quel a été son chemin, à développer donc son travail intellectuel, et à petit à petit à être compris et du côté catholique et du côté anglican. Il y a eu quand même une grande traversée du désert, non ?
Ah oui, plusieurs traversées du désert en réalité. Parce que lorsqu'il devient catholique, après qu'il ait été ordonné prêtre, il y a une méfiance lorsqu'il rentre en Angleterre de la part du clergé catholique, parce que c'est un type trop intelligent en quelque sorte, fin.
Oui.
C'est trop fin, et ils ne le comprennent pas. Même à Rome, l'un des théologiens dominants de l'époque, que Newman admirait d'ailleurs, mais il y avait, il faut dire, une ambiance théologique extrêmement sclérosée à Rome à l'époque, ça l'avait d'ailleurs énormément surpris, dit ben, oui, Newman il est bien, mais il est confus. Et ça va toujours être un peu l'impression qu'il est confus, il essaye de dire des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent, ou de dire des choses qui ont été dites, mais de manière si complexe qu'on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Sauf qu'il avait un impact énorme dans sa prédication et dans sa correspondance, dans ses lettres, etc., comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Alors ça, c'est côté catholique et côté anglican.
Alors, côté anglican,
c'était un traître, tout simplement.
Pour beaucoup, c'était un traître, évidemment, puisqu'il avait quand même été un défenseur de l'Église anglicane, notamment il avait cherché à être un défenseur de l'Église anglicane à travers la rédaction des tracts, et que tout à coup, il va passer à l'ennemi. L'Église catholique, c'est encore aux yeux des Anglais, the Scarlet Woman, hein, la prostituée de Babylone, etc. Il faut rendre compte de l'ambiance. Et il va être attaqué, notamment, à un moment, même par le Premier ministre, qui s'appelle Gladstone, à l'époque. Il va, justement, essayer de défendre son point de vue dans cet ouvrage qui s'appelle Apologie pour ma vie, hein, Apologia pro vita sua, et il va expliquer sa démarche.
Voilà. Il explique sa démarche et sa démarche personnelle.
Voilà. Et après, il va rentrer en grâce, en quelque sorte, même auprès de ses adversaires, qui, à part un ou deux, vont reconnaître son respect des opinions des autres, et ensuite aussi par les catholiques, qui vont voir que quand même il défend bien le point de vue catholique, ce qui va permettre à Léon XIII, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 1879, de le créer cardinal juste au début de son pontificat.
On va faire une première pause après cette biographie à grands pas. Merci à vous, Jean-Louis Breteau. Je cite le titre de l'ouvrage, par hasard, pour ceux qui nous quitteraient, « Comprendre John Henry Newman », paru aux éditions Saint-Léger. Et un passage, on parle d'un gentleman. Dans l'introduction de son propos, l'auteur Keats Beaumont, un prêtre de l'oratoire, dit la chose suivante. Il faut avoir en tête que l'on parle d'un gentleman de l'ère victorienne. Et le gentleman ne porte pas son cœur sur la manche, comme on dit. Il fait preuve d'une grande discrétion. Bref, c'était aussi une manière de situer un peu l'homme. On fait une courte pause et on vous retrouve.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte du cardinal Newman, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec vous, Jean-Louis Breteau, diacre, professeur d'anglais, professeur émérite pardon, d'anglais à l'université Jean Jaurès. Vous nous faites découvrir cette personnalité, cet homme donc, qui a été canonisé par le pape François. C'était le 13 octobre dernier. On l'a dit, on l'a présenté, donc prêtre à l'origine anglican du 19e siècle, né en 1801, décédé en 1890 et décédé en étant cardinal, preuve qu'il était devenu catholique entre-temps. Il a été fait cardinal par Léon XIII. On va se pencher donc dans cette deuxième partie plus sur sa spiritualité et sa doctrine. La première chose sur laquelle vous vouliez insister, vous vouliez revenir un peu sur son chemin de foi. On l'a dit, donc première conversion en 1816, il a donc 15 ans. Et après, donc, c'est un, on va dire un chemin entre différentes confessions chrétiennes, évangéliques, donc anglicanes, catholiques. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, qu'est-ce que vous voulez nous préciser sur ce sujet ?
Alors, je voudrais insister sur quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Et dont on peut dire un mot, c'est qu'il a souvent été très malade. Et il a eu une première maladie très grave en Sicile, en 1832, lorsqu'il faisait un voyage avec un ami. Il a pensé qu'il frôlait la mort. Et il en est sorti, heureusement, mais ça a mis dans son cœur la conviction que Dieu avait une mission pour lui. Et donc il est revenu en Angleterre avec le sentiment de cette mission. Et lorsque peu à peu il va se rapprocher de l'Église catholique et finalement passer ce qu'on appelle le grand passage dans l'Église catholique, quand il sera entré dans l'Église catholique, il va chercher à approfondir cette mission à l'intérieur de l'Église catholique. Comment faire ? Il va donc être envoyé par l'archevêque de Londres de l'époque, de Westminster de l'époque, va être envoyé à...
Il faut dire qu'il perdait tout aussi.
Ah oui, il perdait
son statut, il perdait son métier, alors en plus, il perdait des amis, des frères. Voilà,
en plus, il s'est converti à un moment particulièrement délicat, puisque j'ai parlé de l'archevêque...
Il est devenu catholique, en tout cas.
J'ai parlé de l'archevêque de Londres, mais il n'y avait pas d'évêque catholique. La hiérarchie a été rétablie en 1850. Donc, en fait, il a été envoyé par celui qui avait autorité à ce moment-là en Angleterre. L'Angleterre était considérée par Rome comme un pays de mission. Donc il a été envoyé à Rome pour se former afin d'être ordonné prêtre catholique, avec des amis. Bon, ils ont fait 6 mois de séminaire, en gros. Ils s'est ennuyé profondément.
Et ils ont eu le droit à un raccourci, c'est-à-dire ils ont
été ordonnés rapidement. Ah bah oui, ils avaient quand même étudié un peu la théologie avant. Il s'est ennuyé profondément à Rome hein, pendant 6 mois. Il s'endormait pendant les cours, il le dit lui-même. C'était complexe. Hein. Il trouvait que vraiment la théologie telle qu'elle était pratiquée à l'époque était vraiment très, très, très sclérosée. Espérait un renouveau. Et alors,
il réfléchit donc à devenir dominicain. Finalement, il choisit prêtre de l'oratoire.
Puis jésuite. Oui. Et puis finalement, à la réflexion, il opte pour l'oratoire. Alors l'oratoire, ce n'est pas des religieux. Ce sont des prêtres, une société de prêtres en quelque sorte, associés. Ils ne font pas de vœux, mais ils vivent en communauté. Et puis alors, ils ont une règle extrêmement simple, qui est tout simplement la charité. C'était l'idée de Philippe Néri.
Son fondateur.
Son fondateur. Alors, il appréciait, Newman a apprécié énormément Philippe Néri, pour sa simplicité, pour son amour des pauvres, pour son respect de toute personne qu'il rencontrait, et aussi
pour son humour.
Et vous savez que Philippe Néri, quand il est mort, on a ouvert son flanc, comme on faisait parfois avec les saints, on a découvert que son cœur avait le double de taille des autres, d'un cœur humain normal, tellement il aimait les gens. Et tellement aussi, il avait de l'humour, il rigolait, il se prenait jamais au sérieux. Il a refusé d'être cardinal, Philippe Néri. Il a dit au pape, non, franchement, c'est pas possible.
Profitez-en pour nous parler justement de la personnalité, un peu plus de la personnalité de Newman et de son esprit.
Newman était un hypersensible, on l'a dit souvent. Il est passé par des périodes de dépression. C'était un homme très fin, très subtil, mais très doux. Et très respectueux des autres. Et il avait bien cette qualité d'avoir l'humour anglais. humour qui est souvent pas très compris par nos compatriotes.
Donnez-nous un exemple.
Je vais vous donner un exemple, c'est ce qu'il dit à propos de Philippe Néri, notamment. Alors, en réfléchissant sur lui, il dit « Voilà, je n'ai rien d'un saint en moi, comme chacun le sait. » Bon, il était canonisé, mais à l'époque, c'est ce qu'il disait.
Donc là, c'est Newman qui parle.
C'est Newman qui parle. « Et c'est une mortification sévère et salutaire de s'y trouver comparé. Je peux avoir une vue élevée sur beaucoup de choses, mais c'est ce qui résulte de l'éducation et d'une certaine qualité d'esprit. Mais c'est tout à fait différent d'être ce que j'admire. Je n'ai aucune tendance à être un saint. » C'est triste à dire. Les saints ne sont pas des intellectuels. Ils n'aiment pas les auteurs classiques. Ils n'écrivent pas des romans, parce qu'il avait écrit 3 romans. Je puis être à l'aise dans ma voix, mais ce n'est pas le niveau supérieur de la sainteté. Il me suffit de cirer les souliers des saints, si tant est que saint Philippe emploie du cirage au ciel.
Voilà. Comme quoi, on peut être réceptif. En tout cas, moi, ça me fait rire. Donc, ça prouve qu'on peut être réceptif à l'humour anglais. On n'a pas le temps de lire, mais vous dites, c'est aussi un polémiste. Mais vous disiez aussi oui. On ne peut pas parler de tout, mais peut-être rapidement, c'était un grand polémiste de son époque. Oui. Mais il avait une manière de polémiquer qui devrait nous inspirer.
Oui, qui était toujours respectueuse de l'adversaire, en cherchant à comprendre de l'intérieur la position de l'adversaire. Il a eu quand même des déboires avec des gens avec qui il avait polémiqué, notamment avec un ancien catholique, un ancien dominicain catholique, qui l'a traîné en justice. Et malheureusement, comme il n'était pas en odeur de sainteté, justement, auprès de la justice anglaise, Newman a été condamné. Mais le fait qu'il soit condamné, en fait, lui a valu beaucoup d'estime de la part des catholiques. Ouais, voilà.
Alors, on va se pencher donc sur quelques-unes des grands traits de sa vie intellectuelle. Alors, c'est un passage peut-être un peu exigeant, mais avec vous, ça va certainement être plus simple. C'est le dogme et son développement. Le pape Benoît XVI, à ce sujet, je ne retrouve pas la situation, a dit que ça avait été donc sa contribution avait été très importante pour l'Église catholique.
Tout à fait.
Je vais présenter ça de manière grossière et puis je vais vous laisser préciser. Oui, le pape Benoît XVI disait que c'est une contribution décisive, ça a été une contribution décisive au renouveau théologique. Son travail intellectuel est une manière d'appuyer la foi de l'Église, j'allais dire, ou la conviction de l'Église que la vie chrétienne, l'écriture, le dogme est une matière vivante qui évolue et que c'est comme ça que Dieu travaille aussi à l'intérieur de l'Église et travaille le monde. Alors expliquez-nous.
Alors, c'est notamment ce qui se passe à travers sa réflexion sur le développement du dogme, comme on l'avait dit. Pour lui, le dogme, ça n'est pas du tout ce qu'on... Quand on dit quelqu'un qui est dogmatique, en fait non, dogma, ça veut dire c'est une opinion de l'Église pour éclairer les fidèles. Et donc lui dit, les dogmes, c'est important, parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas se déterminer, si on n'a pas une idée de Dieu, on ne peut pas se déterminer pour Dieu. Donc pour chercher Dieu, pour prier Dieu, il faut avoir une idée relativement précise, aussi précise que possible, en sachant qu'on n'épuise jamais la réalité de Dieu, à travers les dogmes, notamment les dogmes proposés par l'Église catholique.
Mais plus alors, que ça, il y a une forme de développement.
Oui,
l'écriture elle-même a besoin d'un développement.
J'y viens. Alors précisément, les dogmes, ils ont été, dit-il, le fruit du développement que les premiers chrétiens, les premiers conciles, et puis à travers toute la tradition de l'Église, il y a eu un approfondissement de ce qu'était le donné révélé. Dans le donné révélé, il y a tout. Il y a tout, mais tout n'est pas explicité pour les périodes où l'on vit. Et son idée, c'est qu'il fallait accepter que, peu à peu, on découvre comme étant conforme aux données révélées, eh bien, des doctrines que jusqu'à présent, on n'avait pas affirmées. Par exemple, l'Immaculée Conception. Il était l'un des premiers à défendre l'Immaculée Conception. Il a été l'un des premiers à défendre l'infaillibilité pontificale dans le sens strict de ce qu'est vraiment l'infaillibilité pontificale. Parce que, eh bien, la doctrine connaît un développement. Elle n'est pas figée, contrairement à la conception du dogme qu'avait quand même un certain nombre de catholiques aussi à l'époque. Il y a ça, puis il n'y a pas à discuter, etc. Donc lui, il est pour innover, mais innover en fidélité à ce que, euh, à, à ce qu'est la... Il appelle ça, alors c'est un peu dans un essai qui est célèbre, qui est l'essai sur le développement de la doctrine, publié au milieu des années 40, 1840, il essaie de montrer que la doctrine chrétienne se développe à travers la tradition, à travers les siècles, mais en demeurant toujours fidèle à ce qu'il appelle l'idée. L'idée. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est pas l'idée comme nous on se fait dans notre tête. C'est l'idée pour lui, c'est quelque chose qui unifie le christianisme et tout simplement, dans son fond, c'est le Christ lui-même.
Alors pourquoi est-ce que Benoît XVI a dit de lui que c'était, son travail a été une contribution décisive au renouveau de la théologie? Ça veut dire quoi?
Parce que Benoît XVI, en parlant de ça, parle de la période après la Seconde Guerre mondiale où eh bien, les théologiens ont essayé de penser à nouveau frais la théologie catholique. Et la doctrine de Newman, cette doctrine du développement, permettait justement de penser, et le développement de la doctrine, permettait de penser que la recherche théologique d'aujourd'hui, de l'époque, était une recherche utile, indispensable. Et vous savez combien certaines personnes de la période ont été condamnées, parfois même Daniel Lou, de Lubac, tous ces gens qui ont lancé, après la Seconde Guerre mondiale, ont lancé par exemple la recherche patristique, ils étaient un peu suspects. Et Ratzinger, donc Joseph Ratzinger, qui était un très jeune théologien à l'époque du Concile Vatican II, avait lu Newman et trouvait que Newman, notamment alors par un autre point de la doctrine dont je ne sais pas si on aura trop le temps d'en parler, mais néanmoins, c'est sa conception de la conscience.
Alors justement, on y vient. Voilà. C'est un chapitre donc, dans le livre sur lequel je me suis appuyé, Comprendre John Henry Newman, paru aux éditions Saint-Léger, d'un prêtre oratorien, donc Kate Beaumont. Vous me l'avez vendu comme ce livre, comme étant le livre de référence, en tout cas un des livres de référence. Un des grands points de la pensée de Newman, et parfois c'est à ce sujet qu'on entend parler de lui, c'est donc la question de la conscience. Alors à le lire... Oui. Il était, on va dire, au clair sur une conception post-chrétienne de la conscience, et au contraire, il rappelait ce qu'est une juste conception de la conscience. Expliquez-nous ça.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il a redit en fait, haut et fort?
Il compare donc ce qu'on appelle la conscience depuis les Lumières et à travers la philosophie rationaliste, en particulier à travers la pensée d'Emmanuel Kant. Il compare cela à ce qu'il pense être, lui, la véritable conception chrétienne de la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est pour Kant, pour Hegel, pour tous ces et pour les Lumières? Il parle d'une conscience qui est une sorte de sujet autonome qui va juger ce qui est bon, ce qui est mal, mais à partir, subjectivement, à partir de ce que moi je pense, dans ma conscience, je pense que, et je n'ai pas à tenir compte de ce que vont me raconter les gens d'église, etc. Et au contraire, pour lui, je donne ce qu'il dit à propos de la conception chrétienne de la conscience.
Alors juste à propos de son ironie, il a une phrase que je cite à ce sujet. Quant à la confession, pour eux, c'est une chose impossible, sauf bien entendu dans le cas où ils jugent avoir commis une offense qu'ils se doivent à eux-mêmes de présenter des excuses qu'on attend cela d'eux et qu'ils éprouveraient par la suite une certaine satisfaction à l'idée de l'avoir faite.
Oui, alors ça c'est quand il parle de la conscience morale. Et il dit la conscience morale d'un chrétien. C'est une conscience qui est éclairée par sa foi. Et le chrétien craint Dieu dans le bon sens du terme. Il y a une crainte de Dieu, une crainte de ne pas faire la volonté divine. Mais cette crainte est positive. Ça n'est pas, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu dans le bon sens du terme, dans la tradition biblique. Et c'est cette crainte de Dieu qui va vous amener à vous confesser régulièrement pour dire au Seigneur, ben voilà, je me suis écarté. En fait... Il est très, très moderne, de ce point de vue-là. Il dit la confession, c'est réparer la brisure de la relation. J'ai une relation avec Dieu, la relation est brisée, et j'essaye de retourner vers mon Père pour que la relation soit rétablie. Alors, au contraire, la conscience morale, disons, des gens qui le fustigent un peu, là, c'est quelque chose d'autocentré. C'est-à-dire, on a la honte si on estime qu'on n'a pas fait quelque chose qui était digne de nous-mêmes, en quelque sorte. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la conscience morale au sens le plus...
Mais on est en relation qu'avec soi-même.
On est en relation qu'avec soi-même.
Alors, sur la conscience, qu'est-ce qu'il est venu rappeler haut et fort ?
Lui, au contraire, voilà ce qu'il dit de la conscience. La conscience chrétienne, donc, c'est comme la voix de Dieu qui vient du fond de l'homme et parle à son cœur. Et qui est distincte en cela de la voix de la révélation. Donc, il parle d'une conscience. Il y a deux choses. Hein. Ce qu'on va découvrir ensuite par la foi. On va découvrir en adhérant à la religion chrétienne. On va découvrir ce qui nous est révélé dans la personne du Christ. Mais déjà, en tout homme, il y a la voix de la conscience, quelqu'un qui vous parle en quelque sorte au fond du cœur. Il y a une loi qu'on découvre, qui est tout simplement la loi commune, hein, ce que le Décalogue affirme dans la Bible. Mais pour une loi, dit-il, il y a un législateur. Il faut accepter cela. Si on accepte cela, à ce moment-là, on a une vraie conception de la conscience chrétienne. Et si on va un peu plus loin, si on fait l'acte de foi qui est nécessaire, à ce moment-là, si on se dispose à accueillir la foi, à ce moment-là, c'est la personne même du Christ qui va nous être révélée par la lumière du Saint-Esprit.
Donc la conscience, c'est à la fois donc, une forme d'intériorité, enfin le lieu le plus intime de la personne,
voilà.
Mais en tant que Newman, où on découvre forcément quelqu'un d'autre.
Voilà, et il dit, si on est vraiment sincère avec nous-mêmes, on ne peut que découvrir l'autre, au plus intime. Il reprend Saint Augustin, hein, Dieu est plus intime à moi que moi-même. Hein.
Jean-Louis Breteau, oui. Sur cet aspect de la conscience, j'ai l'impression qu'il y a deux manières de l'avoir compris et deux manières, Dieu, mauvaise manière. Certains qui ont fait de lui un libéral, donc peut-être passons la conscience au-dessus de tout, et à contrario, un homme qui pouvait être méprisant justement avec l'esprit des Lumières ou avec une conception post-chrétienne, même oui. S'il était ironique. La conscience, c'est aussi, même quand on ne confesse pas le Christ, c'est quand même le lieu sacré de l'homme et un premier chemin vers
oui,
Dieu.
Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il respecte tout à fait toute personne religieuse à travers le monde, quelle que soit sa religion, a en elle-même cette conscience. Cette conscience que quelqu'un, en quelque sorte, lui parle secrètement et lui dit ce qui est bien, ce qui est mal.
Et l'autre mauvaise conception, c'est d'en avoir fait un libéral aussi.
C'est surtout d'en avoir fait un auto-centré. C'est un peu ce que dit toujours le pape François. Et quand on est auto-centré, on va... Parce que la conscience aussi, lorsqu'on découvre Dieu et la foi, eh bien, on est, il est dit, projeté hors de soi-même. On ne reste pas centré sur soi-même. On découvre Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. On découvre progressivement notre vraie nature, hein, qui ne se peut se voir que dans la lumière du Saint-Esprit, mais ensuite on est poussé vers le dehors pour se mettre au service des autres, pour essayer d'avoir le souci de tous ceux qui ont besoin de cette révélation.
On fait une deuxième pause, Jean-Louis Breteau, et puis on va vous retrouver pour continuer à parler du cardinal Newman, cette figure qu'on découvre ce matin. Vous nous direz pourquoi elle vous parle et elle vous touche particulièrement. Et puis vous nous donnerez des pistes pour aller plus loin au-delà de cette émission. Je rappelle pour ceux qui nous quitteraient maintenant le titre d'un livre « Comprendre John Henry Newman » paru aux éditions Saint-Léger.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La découverte du cardinal Newman, c'est pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec Jean-Louis Breteau qui est diacre et professeur émérite d'anglais à l'université Jean Jaurès. Comme promis dans cette dernière partie d'émission et comme à chaque fois maintenant qu'on découvre une grande figure, Jean-Louis Breteau, si vous deviez parler un peu plus à la première personne du singulier, en dehors du fait que vous êtes certainement féru de grandes figures anglaises au regard de votre vie professionnelle, pourquoi est-ce que le cardinal Newman vous intéresse autant ?
Tout simplement, en premier, parce que c'est un chercheur de la vérité. En permanence, il a eu l'audace, parfois, de quitter un terrain où il sentait qu'il n'était pas dans la vérité. C'est comme ça que peu à peu il a fait tout ce chemin qu'on a indiqué vers l'Église catholique. Et il explique bien que à chaque pas, Dieu nous donne sa lumière pour le pas à venir. Et il faut accepter bien les aléas de la vie. Il dit les échecs. Les échecs sont utiles. Il fait vraiment, il s'appuie, les échecs, les erreurs sont utiles. On progresse, on avance dans la vie chrétienne souvent à travers des erreurs, des échecs. Mais si on recherche authentiquement la vérité, et en tant qu'intellectuel, moi ça ne peut que me toucher, universitaire, c'est un universitaire qui a eu pour souci essentiel, principal, c'est de découvrir la vérité. Aujourd'hui, le mot vérité, c'est la vérité relative aux uns et aux autres, etc. Non, il y a le vrai, le beau et le bien sont des attributs de Dieu. Hein. Et donc, il a toujours cherché à rencontrer celui qu'il avait déjà rencontré dans cette première expérience, donc on a indiqué à 16 ans, mais il a vécu une succession de conversions. Il parle, je crois que j'ai déjà mentionné le terme, il parle d'un entraînement spirituel qu'il faut à chaque fois entretenir. On ne peut pas penser qu'on va devenir saint du jour au lendemain. On est tous appelés à ça, c'est vraiment un slogan pour lui. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Et on est tous appelés à la sainteté. Et il dit chaque être vivant a une mission. À une mission que peut-être il ne va même pas découvrir dans sa vie.
Ça, c'est du pape François,
parce que dans le texte. Hein, ah oui, oui.
Tu es une mission, dit-il aux jeunes.
Oui, mais exactement. Il dit, vous êtes une mission. Alors parfois, vous ne la découvrez pas maintenant. Vous la découvrirez peut-être que lorsque vous verrez Dieu face à face. Mais vous êtes en chemin. Vous êtes indispensable. En même temps, évidemment, Dieu peut faire des prophètes avec des fils. Il peut faire des fils d'Abraham avec des pierres. Hein. Voilà, comme le dit Jésus. Mais, en même temps, Dieu vous regarde et il attend de vous le service, cette mission qu'il vous confie. Mais pour rentrer dans cette mission, il faut accepter de passer par des étapes qui sont parfois extrêmement douloureuses, même les échecs, les erreurs, les incompréhensions. Et peu à peu, on va découvrir le chemin.
Jean-Louis Breteau, est-ce que ce qui vous touche aussi chez ce très grand intellectuel, puisque je disais, en tout cas l'auteur de l'ouvrage qu'on a parcouru aujourd'hui dans Keith Beaumont dit qu'il pourrait même être déclaré un jour peut-être docteur de l'Église.
Tout à fait.
C'est sa simplicité, son humour.
Simplicité, humour.
Il avait à la fois conscience d'avoir une grande mission et en même temps il ne se prenait pas au sérieux.
Exactement, il ne se prenait pas au sérieux. Et mais aussi c'était très profondément un homme de prière. Pour lui la prière c'est fondamental. Si on ne prie pas, on peut pas prétendre à parce que il critique les gens qui disent il faut être actif, la foi est active. Il dit oui, la foi est active, elle est créatrice, mais il faut qu'elle se fonde sur une relation intime avec Dieu. Si elle se fonde pas sur une relation intime avec Dieu, vous faites du bénévolat, du philanthropique, etc. Mais vous ne remplissez pas exactement, vous ne faites pas exactement ce que Dieu attend de vous. Voilà. Et donc, c'est un homme qui priait énormément. On peut même dire, à un certain niveau, il faut toujours être prudent avec ce terme-là, que c'était un mystique. qui avait une grande dévotion pour la Vierge Marie, qui pour le Saint-Sacrement, et d'ailleurs très...
qui avait une relation personnelle avec Dieu.
Ah oui, tout à fait. Et significativement, d'ailleurs, sa première messe catholique, il l'a célébrée le lendemain de son ordination, en la fête du Saint-Sacrement. Voilà.
Jean-Louis Bretot, pour finir, on va donner quelques pistes. Oui. Et puis on finira chacun par une citation. Mm-hmm. Donc, Kate Beaumont, Comprendre John Henry Newman, c'est un livre donc, qu'on a cité au long de cette émission, paru aux éditions Saint-Léger. Qu'est-ce que vous voulez nous donner d'autres
Alors,
comme pistes ?
Alors, du même auteur, mais beaucoup plus accessible pour tout le monde, un petit livre qui s'appelle tout simplement John Henry Newman. C'est des textes choisis chez Arthège. Il y a tout un ensemble de textes spirituels. Et ça donne une idée de la spiritualité de Newman, vous voyez.
Donc ça s'appelle, et c'est paru aux éditions.
Ça s'appelle John Henry Newman.
Et c'est paru aux éditions.
Au Arthège.
Arthège.
Voilà. Et alors bon, pour les gens qui cherchent à comprendre un peu plus au niveau de l'intelligence, précisément.
Un troisième.
Il y a ce bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure, édité par Communio chez Parole et Silence, qui a été édité en novembre sous la direction de Jean-Robert Armogat. Newman, la sainteté de l'intelligence. Et donc, pour finir, moi j'aimerais bien lire, si vous le permettez...
Allez-y, je vous en prie.
Une petite prière que Mère Teresa appréciait énormément, qu'elle avait prise chez Newman, qu'elle avait adaptée. Et voici le texte de Newman. « Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en moi. » Et alors je pourrai comme toi rayonner au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illuminera les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen.
Voilà, et on peut dire que Mère Teresa, elle aimait pas trop les choses compliquées, donc comme quoi les sens se rejoignent. Je vous demande de me tendre le dernier livre, comme ça je rappelle le titre des trois ouvrages. Le plus simple et le plus accessible, John Henry Newman, donc paru aux éditions Arthège. Comprendre John Henry Newman, paru aux éditions Saint-Léger. Et Newman, la sainteté de l'intelligence, avec une très belle couverture, paru aux éditions Parole et Silence, en relation avec la revue Communio, grande revue intellectuelle.
Juste un petit mot de plus, il y a une réédition des œuvres de Louis Bouillet, qui était oratorien, qui connaissait très bien Newman, et qui a fait redécouvrir Newman. On trouve plusieurs ouvrages sur Newman de sa part, et également du cardinal Honoré, qui était archevêque de Tours.
Voilà, vous avez tout. Merci beaucoup, Jean-Louis Bretot, de nous avoir fait découvrir cette grande figure et donc ce saint depuis le 13 octobre dernier pour l'Église catholique. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la trouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.